Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver les grandes voix. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, la bombe Éric Zemmour, affichant désormais 11% dans les dernières projections de sondage. Il est partout, près de 4 millions de téléspectateurs jeudi soir pour ce débat face à Jean-Luc Mélenchon. Zemmour en une de match dans les bras de Sarah Knafo, qui à en lire l'article gagne à être connu. Zemmour, l'homme sous les feux de tous les projecteurs, on en parle, c'est notre premier sujet. À droite, chez les Républicains, on cherche toujours un candidat. Et comme le disait Brice Hortefeux sur un autre sujet, le problème c'est quand ils sont plusieurs. IFOP semble confirmer le leadership de Xavier Bertrand auprès de militants. Oui, mais est-ce une première qui désignera le candidat officiel du parti ou est-ce un congrès fermé? Réponse aujourd'hui au congrès dématérialisé des Républicains. Enfin, Auf Wiedersehen Mutti, une page se tourne ce week-end en Allemagne. Demain, elle désignera le successeur d'Angela Merkel à la chancellerie. Quel avenir pour le couple franco-allemand, d'autant que nous changeons aussi de président en avril en France et que nous prenons la présidence de l'Union européenne. Les grandes voix vous répondent. Vous avez le programme? C'est parti. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste et d'un mot d'amour pour allumer le feu. Merci Johnny. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'a fait Éric Zemmour. Le feu, il l'a bien allumé. C'est-à-dire que certains essayent tant bien que mal d'éteindre l'incendie. Mais là, on est dans une configuration à la californienne. Les flammes sont tellement immenses qu'elles épuisent les soldats du feu, rien qu'à les regarder. Et le mot d'amour, il a été pour la nation. La nation, elle l'a regardé, Zemmour. 3 800 000 téléspectateurs, bien loin du million sur France 2 avec Pécresse d'Armanin. Et puis, on les voit bien danser, les diables et les dieux. À vous de décider qui vous mettez dans les uns et dans les autres. Bon, j'ai arrêté mes métaphores musicales, mes chères grandes voix. Le débat Zemmour a été une bombe. Comment est-ce que vous l'avez trouvé?
Eh bien, écoutez, Gérard Carrérou. Je vais vous dire, j'ai pensé à Joséphine Baker. Joséphine Baker, que l'on va peut-être panthéoniser bientôt. Je crois que c'est fait d'ailleurs.
Oui, bah, c'est pas peut-être.
Alors, hein. Oui, non, mais posez votre question,
la cérémonie n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai pensé à elle, pourquoi? Parce que
c'est un quiz maintenant.
Irrésistiblement, laissez-moi parodier. Oui. Irrésistiblement, j'ai pensé, je me suis dit, j'ai dans la tête, j'ai deux Zemmour. J'ai deux Zemmour, mon pays et Paris. Vous savez, ça va loin.
Voilà.
Oui. Mais les deux Zemmour, mais je veux dire, ça correspond bien à l'état d'esprit dans lequel j'étais, comme beaucoup d'autres, en regardant ce débat. Parce qu'il y avait à la fois, c'était la rencontre du polémiste qu'on connaissait, qu'on avait vu pendant des mois, face à d'autres, mais il n'était pas dans la situation d'être candidat, et la rencontre avec le candidat. Et donc, c'était relativement intéressant de voir. Bon, alors, le match en lui-même, je dirais, comme la plupart de ceux qui ont fait des analyses, je dirais, globalement, plutôt équilibré, plutôt match nul, avec quand même le fait que celui qui était le nouveau a plus de mérite à faire match nul que le vétéran de 25 ans ou 40 ans de combat. Donc, il a quand même gagné, pour lui, il a gagné ce débat. Mais il reste toujours en moi la question que pose très bien un homme, et je conclue là-dessus, Jean-Louis Bourlange a dit une chose qui a percuté dans ma tête. Il a dit « Il est très difficile d'être à la fois le mousquetaire et le cardinal, D'Artagnan et le cardinal de Richelieu. » Or, là, c'est l'exercice auquel se prête Zemmour, c'est essayer d'être le cardinal de Richelieu après avoir été le D'Artagnan.
Catherine Ney.
Vous me demandez quoi? Comment j'ai trouvé le débat?
Exactement.
C'est ça? Exactement. Comme...
Sinon, je d'abord, peux vous demander comment vous trouvez le thé d'Europe 1 le matin.
Voilà. Ou... Non, on ne s'est pas ennuyé, mais je trouvais que chacun était bien dans son couloir. C'est-à-dire que, moi je dirais que c'est pour moi Mélenchon qui a gagné, parce que c'est lui qui a voulu ce débat. Et quand on est tout seul, il n'aurait jamais réussi à attirer 3 800 000 et des poussières de téléspectateurs. Donc, ça lui donne une visibilité dans un débat où il était dans son couloir et il parlait à la France beurre, aux immigrés français, aux Français immigrés, pour dire qu'il comprenait, alors que, au contraire, Zemmour était dans le sien et il s'adressait aux gens de plus de 50 ans qui ont peur du déclin de la France et peut-être même à des plus jeunes. Donc, ils étaient chacun dans son couloir et c'était quand même avec des références historiques. tous les deux s'expriment bien. J'ai trouvé que au milieu de l'émission, Mélenchon a eu une petite baisse de régime. Je me suis dit, il s'endort ou quoi. Puis après, il est reparti. Mais au moins, il n'était pas éruptif et violent comme d'habitude. Donc, c'était le gentil Mélenchon. Donc, voilà.
Michel Cottard.
Oui, je suis assez de cet avis. Chacun a joué pour ses partisans, tout de même. Parce que le début de Mélenchon sur la conduite de la police, etc., est manifestement faite parce que on lui a dit, attention, surtout n'ayez pas l'air d'entrer dans le jeu. Donc, paf, il a fait son entrée sur la police d'un coup. Et après, l'un et l'autre, d'ailleurs, on fait très attention à ne pas se laisser entraîner à des... ils ont fait attention à ne pas se laisser entraîner à des excès dont ils sont coutumiers, l'un et l'autre, chacun de leur côté. Donc, c'est un débat, en réalité, assez construit. Chacun a joué sur son terrain, mais moi je pense qu'effectivement celui qui on attendait que face au grand leader, à un moment donné, Éric Zemmour donne l'impression qu'il n'était pas un homme politique, qu'il était encore un éditorialiste. Or finalement il a très très bien résisté sur un terrain qui était effectivement le sien, mais il a très bien résisté à Mélenchon, qui est quand même un gros adversaire.
Qui est un orateur en effet, Charles Villeneuve.
Ben pour moi, c'était enfin un vrai débat. Un vrai débat présidentiel entre deux visions fondamentalement différentes du monde et notamment de la France, et avec des références historiques et des références littéraires. On peut d'ailleurs départager sur le nombre de citations l'un et l'autre, mais c'était quand même autant... Zemmour a fait appel à Napoléon, à Talleyrand, à Bainville, à Jacques Bainville, dont je recommande la lecture. D'ailleurs, je l'ai relu cet été, notamment sur les Capétiens, parce qu'il explique très bien comment la France s'est construite et comment elle peut évidemment être défaite aussi. Et Mélenchon, je pense que pour lui, c'est le grand danger, c'est le dérèglement climatique, évidemment, qui sauvera la France, c'est la créolisation. Je ne suis pas sûr que la majeure partie des Français... soit de son côté sur ce plan-là, mais enfin, c'est en cela, c'était un vrai débat de fond civilisationnel. Et pour moi, c'est un vrai débat présidentiel. Et je trouve que le novice, devant celui qui a 25 ans de campagne et qui en est à sa troisième candidature à la présidentielle, s'en est pas mal sorti, il n'est pas allé au tapis. Et rien que pour cette raison, je trouve qu'il y a un avantage.
Oui, mais vous direz, moi ça ne m'a pas étonné qu'il soit aussi fort dans un débat, puisqu'il est à la télévision, il est dans un débat permanent. Oui. Il rôde, il est déjà très rodé.
Il a été entraîné, vous voulez dire.
Il était plus entraîné que Mélenchon, qui débat moins que lui, tandis qu'en étant 5 soirs par semaine à la télévision, où il faisait, et c'est vrai ce qu'il lui a bien été reproché, et c'est pour ça d'une certaine manière que CNews l'a viré, il était déjà en pré-campagne présidentielle, et il roulait pour lui. Et donc, moi j'ai plutôt...
D'abord, pardon, mais CNews ne l'a pas viré, suspendu son émission.
Mais sur demande du CSA. Donc moi, je trouve au contraire que c'était normal qu'il soit aussi à l'aise. Et je trouvais que Mélenchon l'était moins que lui. Et on sent qu'il se laissait un peu distancer par moment.
Il y a quand même un bémol que je voudrais introduire.
Gérard Carrérou.
Je n'ai pas introduit tout à l'heure, mais... Le bémol, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle. Alors, vous me direz, ce n'est que le début, il y a 7 mois encore. Mais on ne peut pas faire une campagne sur un seul thème. Oui. Parce que ce thème, même si c'est bien évidemment le thème majeur, le thème central de la démarche Zemmour, et d'ailleurs, dans l'émission, il a occupé plus de la moitié du temps, mais ce thème ne peut pas devenir obsessionnel, si vous voulez. On ne peut pas dire tout est ramené à ce qui se passe en France, à l'immigration et comment juguler et comment corriger, etc. Donc là, je crois que Zemmour a un énorme effort à faire pour aborder, par exemple, la fracture sociale, le problème du pouvoir d'achat et un certain nombre d'autres problèmes. Il les aborde de manière un peu... Il les survole, il les surplombe, mais pour l'instant, il n'est pas entré dans le dur.
C'est dans ça que je trouve que ça n'était pas un débat vraiment présidentiel. C'était un débat entre moi je trouve deux conceptions de l'histoire hein, très, très importantes. D'un côté, la révolution.
Et de l'avenir.
La révolution, le siècle
des Lumières. On a à dessein opposé l'huile et l'eau.
Voilà, alors, absolument. Ça, c'était très bien.
Absolument.
Mais sur le reste, pardon, sur les problèmes sociaux. Simplement, Zemmour a dit qu'il faut baisser les charges sociales. Et les droits sociaux sont obèses en France. Et il a abordé, alors il n'a même pas abordé le problème du climat, sur lequel j'ai trouvé d'ailleurs que Mélenchon en faisait beaucoup.
Quand on le connaissait. Sur la politique migratoire, qui a été un débat unique, il a raison.
Mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Mais on a quand même pu rentrer dans le détail des chiffres, et c'était intéressant.
Non, mais c'était le thème du débat. Moi, je suis d'accord avec Gérard. Ça ne peut pas rester comme ça.
Bien sûr.
Ce débat était centré là-dessus.
Oui.
Donc on a eu le débat promis. Et d'ailleurs, l'opinion publique, les téléspectateurs l'ont pressenti, l'ont senti et sont venus au rendez-vous et sont restés quand on regarde la courbe. Elle est assez étonnante, la courbe, et même remarquable, je dirais. Mais je trouve en tout cas que Mélenchon en a profité aussi pour revenir au centre du débat, ce qu'il ne faisait plus depuis un certain temps.
Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où déjà il a vendu 80 000 livres Zemmour en librairie, 100 000 sur Amazon. Alors il y a une question qui se pose à tous, est-ce que Zemmour est une étoile filante ou un météorite qui va tout faire exploser?
Alors, on se pose la question, je vous propose d'y revenir juste après la pause. Je vous rappelle que Éric Zemmour, puisqu'on en parle, sera l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 à 10h demain. A tout de suite pour les grandes voix.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Assez dissipé, hein, nos grandes voix ce matin. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. C'est donc aux militants de droite d'en décider. 80 000 adhérents des Républicains vont avoir deux choix, une primaire ou un congrès réservé au seul LR pour désigner le candidat unique. Et aux dernières nouvelles, l'hypothèse primaire n'est plus la plus populaire. Oui, mais s'il y a congrès fermé, que fera Bertrand, l'électron libre? Eh bien, il semblerait qu'il demanderait l'adoubement des LR, retour au bercail qu'il a pourtant quitté bruyamment en 2017. En attendant, il est en tête des sondages. Pécresse gagne un peu de terrain. Elle a profité du débat sur France 2 pour asseoir son autorité. Comment est-ce que vous voyez les choses, les grandes voix?
Michel
Cotta.
Je pense que vous dites que Valérie Pécresse a atteint son niveau maximum, malheureusement.
Je n'ai pas dit qu'elle atteint son niveau maximum.
Malheureusement,
elle a essayé son autorité.
Oui. Malheureusement, le débat, comme vous le savez, n'a pas été tellement... il devait être très important pour elle. Et il a été un peu oblitéré par le débat.
1,50 million pour Pécresse Darmanin et
3,8
millions pour
donc c'est quand même,
le même soir, Zemmour, Mélenchon.
Non, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voit très bien qu'à l'intérieur des Républicains, il y a des gens qui ne veulent pas de cette primaire, à juste titre ou pas,
de
à juste titre, peu importe, et de plus en plus. Et qu'effectivement, Bertrand a fait une ouverture en disant qu'autant il ne se présenterait pas à la primaire, autant il pouvait figurer dans le Congrès. Donc on voit bien que c'est son dernier pas, que c'est sans doute, celui qui sera accepté par Jacob, qui quand même
Christian
ne veut
Jacob,
pas, qui ne veut pas d'un face-à-face ou d'un acte réitéré de ce qu'on a vu en 2016. Donc, à mon avis, tout de même, chacun a ses chances. Et Bertrand est sans doute celui qui sort le mieux à l'heure actuelle.
Oui, mais il y a quelques semaines, j'avais dit ici, d'ailleurs, plusieurs autour de la table étaient d'accord, on avait dit que la primaire avait pris du plomb dans l'aile et que la primaire n'aurait pas lieu. Là, elle est mort-née, si j'ose dire, puisqu'elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. On saura en fin d'après-midi, le vote des militants donnera effectivement l'avantage à un congrès, c'est-à-dire en fait un vote restreint de ceux qui appartiennent au parti. Et il y a une chose quand même, alors ça c'est une chose, et on verra, ça peut être serré quand même, mais quand même il y a une chose qu'on n'a peut-être pas assez dite, en tout cas je veux dire la presse, pas nous, la presse en général, c'est-à-dire quand même que Bertrand a gagné le match du grand sondage. Vous vous souvenez de cette histoire du grand sondage de 15 000 personnes? On avait dit c'est très important, c'est beaucoup plus de gens consultés.
Celui de l'IFOP.
Bon, ce match de l'IFOP, si vous avez regardé le détail, je vous renvoie au détail, mais globalement, il est quand même à l'avantage de Xavier Bertrand. Alors on peut dire oui, c'est un léger avantage, et sur certains items, c'est plutôt Pécresse ou c'est plutôt même Barnier sur d'autres. Mais globalement, il faut avoir une vision globale sur ce sondage global. Il est à l'avantage de Bertrand. Ouais. Et ce qui me fait penser que si on va vers le vote dit des militants, c'est-à-dire le contraire d'une primaire élargie, eh bien Bertrand l'emportera, fût-ce de quelques centaines, milliers de voix.
Catherine, moi, je suis moins sûre que vous. Parce que ce sondage, il a été fait, très sérieusement, à un moment où Xavier Bertrand, qui est engagé depuis très longtemps, a maintenant pris une avance sur les autres, avec un jugement, voilà. Mais les choses peuvent un petit peu changer. Parce que maintenant, on parle plus de Pécresse, plus de Barnier, plus de... Voilà. Donc, et les militants, alors, s'ils savent que vraiment, Xavier Bertrand continue de monter dans les sondages, ils vont se dire, mieux vaut gagner avec quelqu'un qui nous a quittés que de perdre avec quelqu'un qui est resté avec nous. C'est ça, leur... voilà. Et c'est pour ça qu'ils vont pendant... Je pense qu'aujourd'hui, ils vont décider de voter des militants seulement au moment du congrès, le 4 décembre. Mais d'ici là, les choses peuvent peut-être un peu bouger. Parce que Xavier Bertrand, il dit « Moi, je viendrai vous demander votre soutien. » Il ne dit pas « Je vais venir devant le vote des militants. »
Le micro, Catherine.
Voilà. Et c'est ça qui va... C'est...
Oui, mais c'est une ambiguïté. Il n'y a pas eu de dynamique. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas eu de dynamique Bertrand.
Il n'y a pas de dynamique.
On pouvait penser que pendant l'été, comme il était parti en avance, il y aurait une dynamique Bertrand. Il n'a pas eu de dynamique Bertrand. Mais... Il n'y a pas non plus de dynamique contraire. Il n'est pas redescendu. Ah, oui. Il est sur un plateau depuis maintenant quelques semaines. Il est autour de 14-15, selon les sondages, etc.
Parce que finalement, Zemmour Michel doit Cotin. Aussi... Zemmour qui enlève des voix à Marine Le Pen doit
aussi,
envoyer aussi. Et qui, on parle du mois de décembre. Alors moi, franchement, je vais vous dire, je trouve que si on attend décembre pour désigner un candidat de l'opposition... Alors, franchement, décembre,
c'est sera très...
C'est
très loin.
Non, mais... Voilà.
Oui. Moi, je pense qu'il faut toujours se méfier de septembre. Ouais. Il faut se rappeler, notamment, Valéry Giscard d'Estaing, qui était nettement en tête en 81 et qui a fini par perdre. Donc, être assuré, si vous voulez, de l'élection, déjà, du candidat de la droite, qui patauge, il faut le reconnaître, et d'ailleurs, ce week-end le démontre une fois de plus... c'est prendre beaucoup de risques. Mais en tout cas, et je dirais exactement comme Gérard, c'est-à-dire que on peut tourner la chose de n'importe quelle manière, on peut observer que depuis les élections régionales, sans écraser la concurrence, Bertrand sort toujours en tête, en permanence. D'ailleurs, il était parti très tôt, justement, pour prendre cette avance. Et pour l'instant, il la tient. Alors, il ne la tient pas de manière écrasante, mais il la tient. Maintenant, il va y avoir un congrès, vraisemblablement.
Un congrès fermé.
Bon, ce congrès, il faudra compter aussi avec un outsider qui commence un tout petit peu aussi à faire du score, c'est Barnier. Imaginons que durant ce congrès, aussi bien Pécresse que Macron s'écharpent.
Ouais.
Bon, le troisième larron peut de toute façon profiter de cette bataille. Mais c'est la raison pour laquelle rien n'est sûr encore, rien n'est assuré. Mais il n'empêche que celui qui rentre en tête de ce congrès, c'est Macron.
Mais en attendant,
c'est Bertrand
qui ne fait pas partie du congrès fermé.
Mais oui, c'est ça qui est
l'ambiguïté.
C'est ça qui est l'ambiguïté, parce que là, on revient dans le fond. En faisant voter les militants, alors évidemment, par rapport aux Verts, ça va faire petit bras. Les Verts, ils avaient 122 000 votants, tandis que là, il y a 80 000 militants, 60 000 qui payent leurs cotisations, ça fait quand même... quelque chose, ça fait petit bras, un vote petit bras. Mais on a toujours fait comme ça. Quand Nicolas Sarkozy a été choisi comme candidat à la présidentielle, il avait Dupont-Aignan et puis Madame Boutin contre lui, quand même. Et les Chiraciens ne voulaient pas qu'il y ait des candidats, qu'ils poussaient des candidats.
Mais n'oublions pas.
Donc c'était normal.
N'oublions
je peux vous
pas.
Dire, s'il y avait eu, si les candidats de la primaire précédente avait été dans un congrès avec les militants, c'est Sarkozy qui gagnait. C'était tout de suite. C'était voilà.
Donc c'est bien
là,
pour ça, que
c'est
les
bien
gens
pour ça qu'ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus de la primaire. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est à la fois Bertrand qui dit « Moi, je viendrai devant le congrès demander votre soutien. » Mais il y aura bien quelqu'un d'autre que lui qui sera sorti du congrès si on vote, puisqu'il ne se soumet pas au vote. Donc c'est une chose que je ne comprends pas. Ah. Et pourquoi est-ce que le parti dit attention, pas avant le 4 décembre, c'est parce qu'ils disent ce qu'on espère, c'est que ça va décanter. On va voir. Et si vraiment, vraiment, Xavier Bertrand monte, eh ben, c'est là qu'on choisira l'enfant prodige.
Il mais pour l'instant, il n'en a pas impossible qu'ils décident aussi de dire qu'ils feront voter aussi sur ceux qui ont quitté récemment le parti, c'est-à-dire, en l'occurrence, Bertrand et Pécresse. Il est tout à fait possible qu'ils soient réintroduits. Le Congrès...
Comme ça, par magie
bien sûr, non, mais
ils
le
peuvent
geste...
décider et en disant, pour qu'il y ait véritablement un vrai choix... Nous estimons...
Au nom de la famille politique.
Oui, au nom de la famille, nos camarades, nos écrans.
J'ajoute, Pierre,
Charles,
au pot du débat, que qui a l'appui de l'un des leaders les plus populaires chez les adhérents et les militants des Républicains ? Barnier. Appuyé par...
Wauquiez.
Et ça va peser aussi... durant ce congrès.
Mais Michel, je vous donne la parole juste après une pause et on revient et on parle justement du candidat des LR. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Et le conseil familial des grandes voix, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau a décidé de passer au sujet allemand, puisque les Allemands ont le cœur lourd, hein, comme lorsqu'un être bien-aimé part prendre son train après un long séjour qui a bien apaisé des tensions dans la famille. Mouti s'en va. Angela Merkel quitte la chancellerie après avoir été sans doute l'un des chanceliers les plus aimés, même dans le cœur des jeunes, hein, qui disent encore aujourd'hui que si elle se représentait, ils voteraient pour elle, les yeux fermés. D'après un cadre de la CDU, nous sommes devant l'élection la plus incertaine de ces dernières décennies. Ce genre de cas de figure où on ne connaît pas le nom du chancelier à la fin du scrutin. Aux dernières projections, le ministre des Finances, Olaf Scholz, du SPD de centre-gauche, est devant les autres avec 25%. Merkel, elle pousse Armin Laschet, CDU, actuellement à 23%, des scores historiquement bas pour le pays. Mouti s'en va, soit. Elle laisse certains Allemands orphelins, soit. Mais quel bilan laisse-t-elle
général? Un mauvais bilan. Alors, je trouve, moi, je ne suis pas de ceux qui vont laisser, qui ont le cœur lourd, comme vous l'avez dit. Je ne dis pas au revoir Mouti à la larme à l'œil. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a fait deux choses qui sont préjudiciables. L'une préjudiciable à la planète et l'autre préjudiciable effectivement à l'Europe. Celle qui est préjudiciable à la planète, c'est la décision idéologique ou opportuniste qui a été prise dès qu'elle est arrivée au pouvoir de donner la tête du nucléaire au vert allemand. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait en Allemagne depuis? On a bazardé les centrales nucléaires, on a remis le charbon à mort, et le charbon, et regardez les résultats, et nous, on a des écolos ici qui voudraient faire la même chose, alors que le nucléaire ne pollue pas, et on a la chance, due au général de Gaulle, d'avoir ce nucléaire, et ils ont réussi à abolir. Donc, première grosse erreur, je ne lui pardonne pas le retour du charbon. Et deuxièmement, la crise migratoire de 2015, on l'a dit à l'époque, mais on ne l'a pas assez dit. On en a vu après les conséquences. Et alors, pour les Allemands, ça n'a pas été si mal que ça, parce qu'ils ont réussi, effectivement, ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient besoin de jeunes main-d'œuvre, ils ont réussi à les intégrer, ils ont mis les moyens. Mais pour le monde...
Mais encore 50% de ceux qu'ils ont reçus sont toujours
mais pour
hors
le monde,
emploi,
et pour le terrorisme, et pour, par exemple, le Bataclan, on voit que parmi ceux, le million de migrants, dans lequel il n'y avait, on nous a baratiné, on nous a dit
ce sont partie de l'image
ce
de
sont des
Hélas,
pauvres hein, gens, oui. Oui, on nous a dit ce sont des pauvres gens, des pauvres Syriens sans patrie. On a aujourd'hui vu qu'il y avait effectivement plus du tiers de ces migrants qui n'étaient pas du tout des Syriens, qui étaient des gens qui se sont engouffrés et parmi eux des terroristes. Je trouve que c'était une erreur gravissime. Elle l'a fait sans aucune concertation avec la France, malgré les liens spéciaux entre la France et l'Allemagne. Et finalement, après, on a essayé de bricoler, d'en ramasser quelques-uns, etc. Je trouve que les deux choses sont rédhibitoires pour un chef d'État.
Bon, alors, Gérard a sorti son AK-47, Michel.
Oui, moi, je m'arrête sur l'immigration. Gérard, je te fais remarquer que pendant cette campagne, la campagne qui vient d'avoir lieu en Allemagne, on a parlé une fois d'immigration et que l'immigration est devenue le huitième sujet dans l'intérêt des Allemands. Ce qui prouve que finalement, elle a pas mal réussi son coup et finalement, elle a pas mal réussi ce million d'immigrés.
Je ne suis pas d'accord.
D'accord. Enfin, je voulais faire simplement un peu de sensibilité. Moi, je dois dire, Merkel est un pas un ovni politique, comme le dit sa biographe, mais Merkel restera dans l'histoire de l'Allemagne, pas seulement parce que c'est une femme, mais surtout parce qu'elle vient de l'Est, qu'elle a passé 35 ans en Est, et que c'est la seule qui fait les liens entre les deux Allemagnes, et que finalement, elle a montré plus de doigté, plus de compréhension que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes ne l'auraient fait Charles à sa place. Et en plus, on finit pas à 80% d'opinion favorable si on est vraiment nul.
Oui, c'est un bilan nuancé. C'est un bilan beaucoup plus nuancé qu'on veut bien le dire. Il y a d'abord un bilan positif par le fait qu'elle a 16 ans de stabilité à la tête de l'Allemagne. Et c'est un apport considérable pour la situation de politique intérieure allemande. Ça, c'est indéniable. On peut guère le discuter. Maintenant, en ce qui concerne justement l'immigration et l'entrée, porte ouverte pour 1 million de réfugiés. Bon, c'est ce qui est en train d'affaiblir justement son parti, la CDU. Car la réaction justement d'une partie de l'opinion publique allemande est d'avoir fait renaître l'extrême droite. Et c'est cette extrême droite qui affaiblit aujourd'hui la CDU. Et elle rame d'ailleurs en ce moment, en permanence à la télévision, pour aider le leader de son parti qui risque de ne plus être dans la coalition. On va voir d'ailleurs une coalition extrêmement bricolée entre les Verts, le SPD, c'est-à-dire la gauche allemande, enfin une gauche à l'allemande aussi, ça aussi il y a beaucoup à dire là-dessus, et aussi l'apport du parti qui est favorable au patronat. C'est cette coalition-là qui peut, de toute façon, qui va être le partenaire de la France. Car le couple dans cette affaire, le couple franco-allemand est essentiel pour la marche de l'Europe. N'oublions pas qu'entre la France et l'Allemagne, c'est 150 millions d'habitants, 150 millions d'Allemands et de Français sur 450 millions d'Européens. Et que, entre la France et l'Allemagne, c'est 47% de l'économie de la zone euro. Donc, le couple devra fonctionner obligatoirement, d'autant plus que la France prend la présidence, comme l'a dit tout à l'heure Gérard, et prend la présidence de l'Europe.
Vous parlez du couple franco-allemand. Merkel, on ne l'a pas beaucoup entendu sur l'histoire des sous-marins français, d'ailleurs. C'est assez étonnant.
Madame von der Leyen qui est intervenue là-dessus.
Non, il n'y a pas que... Il y a son conseiller diplomatique
qui est intervenu
hier pour dire que c'était une insulte à un partenaire de l'OTAN. Bon. Parce que là, je crois au contraire que Madame Merkel, elle est très secouée par cette histoire, non pas à cause des Français tout ça, mais pour le principe, parce que cette nouvelle alliance de l'AUKUS, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie
et les États-Unis,
c'est une sorte d'OTAN bis. Oui. Et donc, c'est contre les alliés. Elle a pris ça comme une mauvaise...
Et après l'Afghanistan.
Elle a pris ça comme une très mauvaise chose. Et donc, en plus, si elle a toujours freiné sur les propositions françaises de créer une défense indépendante de l'Europe, elle disait... On veut bien créer une défense européenne, mais au sein de l'OTAN. C'était un apport multi, de l'Europe au sein de l'OTAN. Et là, elle s'aperçoit que là, ce que fait le nouveau pouvoir américain, d'abord, ça les choque beaucoup. Elle est très et donc ça met une distance et elle regarde plus l'Amérique comme elle la regarde.
Il y a autre chose aussi, Pierre, qu'il faut souligner, justement dans le bilan nuancé sur l'Europe. Sur le plan européen, elle fait une très belle sortie, en ce sens où c'est elle qui a été motrice dans le plan de relance. Sur le plan de
ils ont été deux pour le plan de relance. Ça, c'est pas... S'il n'y avait pas le starter, sur le plan de relance, s'il n'y avait pas eu le starter Macron, on peut lui dire au moins ça, elle n'aurait pas bougé. Elle bouge toujours au bout d'un moment, Merkel.
Mais elle pouvait ne pas bouger aussi. Or, elle a bougé. Et en cela, elle fait une belle sortie. Sauf qu'elle a mutualisé donc les dettes sur le plan des conséquences de la pandémie. Mais en revanche, sur la question de la dette souveraine, elle a cassé l'Europe. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, elle a créé deux zones en Europe. L'Europe du Sud, n'oublions pas, dans laquelle il y a la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. C'est l'Europe du Sud, l'Europe des pauvres. Et elle les a assassinés quasiment sur ce plan-là. Il faut quand même le souligner, il faut se le rappeler sur ce plan-là.
Alors reste dans l'avenir. Que la coalition, on ne sait pas du tout ce que ça va être en Allemagne, on ne sait pas quelle coalition, parce que finalement, maintenant, le leader du CDU est très proche du leader du Parti socialiste allemand. Donc, il y a 2 points d'écart, vous l'avez dit vous-même. Donc, finalement, la composition de la coalition est toujours très difficile à faire en Allemagne.
Oui,
et dans ce cas,
pardon,
ça peut beaucoup gêner Emmanuel Macron, lequel est, prend la présidence de l'Europe et qui peut, au lieu d'en tirer immédiatement profit, être au contraire entraîné dans les profondeurs d'une coalition que l'Allemagne ne sera pas capable de monter.
Est-ce que ça va être une coalition molle ?
Une pause, les grandes voix. On revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des grandes voix avec Charles Villeneuve, Gérard Kerrou, Michel Cotta et Catherine. Et Catherine, Angela Merkel s'en va, mais pas tout de suite.
Ah ben non, parce que là, vous savez, il va y avoir les élections demain et puis le parti, celui qui est en tête, le chancelier sera. Mais après, il faut discussion de coalition. Ça peut durer très longtemps.
Absolument.
Rédaction d'un programme, le traité, pour valider, faire valider par chaque parti, doit valider par la base. Réunion après en Bundestag et tout ça. Mais ça peut prendre des mois. Oui. Et moi, je dis, ça serait pas... Ça pourrait arriver que la chancelière soit encore à la chancellerie alors que Macron sera élu ou battu.
Mais très affaibli.
Ça peut très bien arriver.
Très affaibli.
L'autre fois, ils ont mis cinq mois. Ils ont mis 5 mois à constituer le gouvernement.
Et alors
Nous sommes quasiment en novembre.
Hein. Oui.
Novembre, décembre, janvier, février, mars. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de gouvernement allemand, de chancelier en situation
c'est
de gouverner jusqu'au mois de mars.
Oui.
Or, le mandat de Macron commence effectivement en janvier et il se terminera en juin.
Oui,
donc ça veut dire que pendant la moitié du mandat de Macron, il n'y aura pas d'interlocuteur allemand qui permettra
de faire jouer le
poids de l'alliance et donc d'avoir des décisions.
Donc ça risque pour sa présidence européenne, c'est un problème.
Non mais ça montre bien qu'il faudra longtemps d'abord ce que vient d'expliquer Catherine et Gérard. Et il faut y ajouter, non seulement ce sera, si vous voulez, ça mettra un certain temps pour mettre au point la nouvelle méthode de travail avec le nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière, mais surtout, pour la première fois, le couple franco-allemand sera seul aux commandes. En ce sens où il n'y a plus les Anglais.
Mais justement,
ça, c'est très important.
Justement, ça veut dire que la paralysie, le mandat de Macron peut être davantage paralysé par la présence d'une chancelière en fin de course et qui expédiera les affaires courantes. Donc c'est vrai que c'est objectivement ennuyeux pour Macron si la coalition allemande met trop de temps à s'installer.
Et sans le couple franco-allemand, ça ne fonctionne pas.
Voilà.
Oui, enfin, avoir une coalition. On répète inlassablement depuis 20 ans que rien ne serait possible en Europe s'il n'y avait pas le couple franco-allemand. Et là, on va avoir un couple quand même qui va être bizarre avec un président en fin de mandat, en campagne électorale, et une chancelière qui est partie, donc, ou qui assume l'intérim en attendant le successeur. Je veux dire, l'Europe qui déjà vient d'être ridiculisée par l'histoire des sous-marins, parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
Et l'Afghanistan.
Et l'Afghanistan. Je veux dire par là que l'Europe, aujourd'hui, ceux qui étaient européens de conviction, et je l'ai été moi pendant longtemps, aujourd'hui, il y a quand même nature à s'interroger sur la possibilité de l'Europe de se faire de manière satisfaisante.
On voit, pour revenir au début, que dans le débat Mélenchon-Zemmour, ils étaient d'accord sur le fait de sortir de l'OTAN et de prendre ses distances avec l'Europe dans une souveraineté retrouvée. Donc ça, à mon avis, la période-là est très importante de ce point de vue-là.
Merci beaucoup les grandes voix. Merci à vous Michel Cotta, Catherine, Charles Villeneuve et Gérard Kerrou. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous rappelle aussi que Éric Zemmour, puisqu'on en parle, sera l'invité du Grand Rendez-vous à 10h demain sur Europe 1. Bonjour mon cher Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors ce matin, on va vous mettre à la cuisine végétarienne. Mais attention, hein, celle qui rassemble et qui est joyeuse. Nous allons aussi recevoir Zabou Breitman et on va partager un joli plat du jour de saison avec elle. On vous attend. À tout de suite.
À tout de suite.